Les informations de Jacques-Yves Molina.
Retour au calme ce mardi à la prison de haute sécurité de Boulouo, à 110 km au nord de Lubumbashi, après la tentative d'évasion d'hier. Cette remue-ménage a fait 4 morts et une dizaine de blessés. Les détails dans ce journal avec notre envoyé spécial depuis la prison de Boulouo. Les élèves du groupement Djomba fuient le recrutement forcé dans le rang des CNDP de Laurent Kunda. Une centaine d'entre eux arrivés à Rutshuru Centre sont regroupés au stade de Tatandézé. Depuis lors, ils sont sans assistance. Au moins 1000 ménages sont sans abri et sans assistance dans la plaine de Daro, en territoire de Maagi, en Ituri. Et depuis maintenant un mois, ces familles sont victimes d'inondations qui ont ravagé cette plaine le mois d'août dernier. Bonsoir mesdames, bonsoir mademoiselles, bonsoir monsieur. Retour au calme à la prison de haute sécurité de Boulouo, située à 110 km au nord de Lubumbashi. Nous sommes au Katanga. La police a maîtrisé les prisonniers mutins qui avaient tenté de s'évader hier. Le bilan actuel fait état de 3 morts du côté des forces de l'ordre et 1 mort de côté prisonnier et un total de 10 blessés. Une délégation du gouvernorat de province est rendue sur place à Boulouo. Paul Kaboba était aussi de la partie. On l'écoute.
La prison semble avoir retrouvé son calme. Quelques militaires campent à l'extérieur. À l'intérieur, les services pénitentiaires s'affairent à remettre de l'ordre. Les 4 morts sont entreposés à la mort générale des références d'Ako. Dans cet hôpital sont également internés 3 blessés d'un quart décès. L'hôpital sud de la Jokani ne soigne 7 blessés, tous prisonniers. Il n'y a aucun civil parmi eux. Tous les blessés affirment que les combats étaient intenses. Les prisonniers disent de s'être révoltés parce que les autorités pénitentiaires leur demandaient de leur céder une partie des provisions envoyées par le gouvernement de province. Les prisonniers disent aussi avoir découvert le dépôt d'armement de la prison, ce qui leur a permis de tenir le plus longtemps possible. Le ministre près le gouvernement de province, accompagné du commandant de la 6e région militaire, se sont rendus à Boulogne ce matin. Les deux autorités ont demandé aux prisonniers de ne plus jamais troubler l'ordre public, ce que les prisonniers semblent avoir accepté. Boulogne, Paul Kaboba, Radio Okapi.
Nord Kivu maintenant, une centaine d'élèves sont regroupés depuis plusieurs lundis au stade de Tatandézé des Rutshuru Centre, localité située à 60 km au nord de Goma. Ces élèves, dont l'âge varie entre 7 et 18 ans, filles et garçons, disent fuir le recrutement forcé dans les rangs du CNDP du général déchu Laurent Kunda dans le groupement de Djomba. La police affirme que des dizaines d'autres élèves de Djomba ont pris des directions diverses à la suite de cette situation et les cours ont été suspendus dans les écoles concernées. Thérèse Kankou.
Une dizaine de nouveaux élèves en provenance de Djomba sont arrivés ce mardi matin au stade de Tatandézé de Rutshuru Centre, affirment les sources administratives à Rutshuru. Ces élèves s'ajoutent à au moins 150 autres arrivés depuis lundi. Ils sont filles et garçons. Ils déclarent être élèves pour les moins âgés des écoles primaires Kabindi, Tchengerero et Bugusa. Les plus âgés proviennent des instituts Busimba, Rwanguba et du lycée Virunga. Selon ces élèves joints sur place, certains de leurs collègues se sont présentés au cours lundi matin, armés des pistolets pour les uns et d'autres armes blanches pour les autres. Ensuite, affirme-t-il, des militaires appartenant au CNDP de Laurent Kunda ont encerclé leurs écoles, ce qui a créé une panique puis la fuite de ceux qui n'étaient pas armés. La police de Tchengerero indique que d'autres élèves ont pris la fuite dans d'autres directions. Pour leur part, les autorités administratives sur place, au chef-lieu de Rutshuru, déplorent les faits que ces enfants n'ont aucune assistance depuis leur arrivée. Ceux qui sont regroupés au stade ont passé la nuit de lundi à mardi à la Belle Étoile, alors que le nombre de ceux qui sont dans des familles d'accueil n'est pas connu avec précision. Les responsables du CNDP n'était pas joignable ce mardi avant midi.
À Kisangani, en province orientale, près de 200 démobilisés se patientent pour leur réinsertion sociale. Ils accusent l'Institut national de préparation professionnelle, l'INPP en sigle, de ne leur avoir pas délivré des brevets à l'issue de leur formation des chauffeurs mécaniciens. En plus, ils affirment ne pas toujours disposer des kits de sortie, alors qu'ils ont fini la formation depuis 8 mois maintenant. José Richard Teminga.
Ils sont 180, les démobilisés qui se plaignent de leur situation. Un sous-traitant de l'INPP, l'école de formation professionnelle, les compagnons de Daniel, les avait déjà formés en mécanique générale. Depuis lors, ils tournent les pouces. Ilunga Tambwe, l'un d'entre eux.
Quand j'ai été démobilisé, on m'a assuré que tout était prêt. Nous étions dans le projet INPP.
Nous avons été formés comme des chauffeurs mécaniciens. C'est depuis fin février que nous avons fini la formation. Depuis lors, on ne voit rien. Nous n'avons aucun papier prouvant que nous sommes des mécaniciens. Pas de kit de sortie non plus. Nous demandons aux autorités de nous donner des brevets, des permis de conduire et nos kits de sortie qu'ils nous ont promis. C'est tout ce que nous réclamons.
De son côté, l'INPP reconnaît cette situation. Il dit qu'il attend que le programme national de démobilisation, PNDDR, ex-CONADER, lui verse la deuxième tranche de fonds pour parachever son projet. Aloïs Tabou, directeur provincial de l'INPP.
Il se pose un problème en rapport avec la dernière tranche de fonds qui doit venir de l'UEPNDDR, ex-CONADER. Alors, à partir de ces fonds-là, nous pouvons maintenant décanter toute la situation.
Contactée à ce sujet, la responsable provinciale de l'ex-CONADER, Mme Françoise Moulawa, déclare que le financement de leur projet est suspendu depuis 4 mois. Elle appelle les démobilisés à la patience, car la situation sera décantée dans les jours à venir. Kisangani, José Deschartes-Menga, Radio Okapi.
À Bandundouville, la commission justice et paix dénonce les tracasseries et autres cas de violation des droits de l'homme perpétrés quotidiennement par les agents de l'ordre dans les territoires de Bagata. Le directeur diocésain de cette commission l'a déclaré après une mission de sensibilisation dans la contrée. Il lance un vibrant appel aux autorités tant civiles que militaires pour que cessent ces pratiques sur le terrain. L'abbé Onésime Mouyembe, directeur de la commission justice et paix du diocèse de Kenge, est au micro de Basile Bakumbane.
Partout où je suis passé, la population voit ses droits violés à tout instant. Des tracasseries, des arrestations arbitraires, des amendes forfaitaires, des rétentions indues pendant un long temps au cachot, le manque de respect de biens et de personnes. Une fille a avorté, par exemple, est retenue au cachot pendant plus de 2 semaines en train de saigner jusqu'à sentir parce que la famille n'a pas terminé à payer l'amende. Je peux citer encore un cas, le village de Fambonde dans la collectivité de la Wamba, où il y a eu des ordres à l'occasion d'un match. Les policiers qui sont venus en renfort ont pillé le village. Tout le village était en forêt. Pendant 3 jours, les élèves n'étudiaient pas. Les mamans qui vont à la pêche sont poursuivies. Tout cela, ça dérange les gens et même l'économie de la contrée est tout à fait en péril. Presque les 3/4 des cas de violation sont attribués aux forces de l'ordre. Il y a un vibrant appel, une formation, un recyclage qu'il faut refaire de tous ces gens qui sont sur le terrain à l'intérieur.
Contactées à ce propos, les autorités de la police condamnent ces actes et demandent à la population de dénoncer régulièrement de tels cas. Elles promettent de diligenter une enquête pour que les auteurs de ces actes répondent de leurs actes devant la justice. En Ituri, plus de 1000 ménages sont depuis un mois sans abri et vivent sans aucune assistance humanitaire dans la plaine de Ndaro, en territoire de Mahagi, non loin du lac Albert. C'est le constat fait ce mardi par certains ONG humanitaires et certaines agences du système des Nations Unies après avoir survolé cette région par hélicoptère. Ces ménages sont victimes d'inondations qui ont ravagé cette plaine depuis le mois d'août dernier. Le détail avec Isaac Remoyopé.
La plupart de ces ménages occupent les montagnes voisines dans le groupement des Massoa. Essentiellement des enfants et des femmes, ils n'ont pas de vivres ni de médicaments, encore moins d'eau potable. Selon les responsables des FAO à Mahagi, ces sinistrés avaient perdu plus de 200 hectares de riz, de manioc et de patates douces suite aux inondations qui avaient ravagé leur village les 2 derniers mois. Pour le moment, la plaine d'Endaro, leur milieu naturel, reste encore couvert d'eau. À l'issue de la visite aérienne effectuée ce mardi, les responsables du bureau d'Ocha à Ituri promettent une aide d'urgence à vivre. Par après, selon la même source, la FAO mettra à leur disposition des semences maraîchères et des outils aratoires. Notons cependant qu'aucune date n'a été déterminée pour cette assistance humanitaire. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Au sud Kivu, le bilan alimentaire et nutritionnel est catastrophique. C'est le constat fait ce mardi à Bukavu par la FAO et les organisations locales du domaine de l'alimentation. C'est à l'occasion de la commémoration ce 16 octobre de la Journée internationale de l'alimentation. Pour ces organisations, cette situation est la conséquence logique des périodes de diverses crises et des perturbations climatiques que connaît la province. Le gouvernement provincial reconnaît cet état des choses et il indique que les priorités sont déjà ciblées. On écoute le ministre provincial de l'Agriculture, Kamanzi Kibibi, au micro de Didas Namujimbo.
La première chose que nous envisageons, c'est mettre en place les structures d'encadrement de la population dans chaque territoire. Les gens là qui animent ces structures doivent être d'abord recrutés, formés pour les rendre performants. De deux, il y a une urgence pour la lutte contre les maladies de bétail et de maladies végétales. Nous voulons aussi chercher à disponibiliser les intrants agricoles à travers les centres pilotes que nous voulons aussi réhabiliter et revaloriser. Les agriculteurs, ils cultivent, mais les gens qui viennent d'ailleurs, ils les imposent les prix. Mais nous devons les aider pour que le produit de leur champ puisse avoir un marché. La suivante, c'est la promotion de la recherche scientifique. Donc nous voulons valoriser vraiment les centres de recherche.
À noter que cette 26e journée internationale de l'alimentation est célébrée sous le thème « Le droit à l'alimentation, il est temps d'agir ». Première audience lundi au tribunal de paix Lubumbashi Kamalondo dans le procès opposant le président du conseil d'administration de la Société nationale de chemin de fer du Congo à la LICOF, Ligue contre la corruption et la fraude. Le président du conseil d'administration de la CNCC accuse les responsables de la LICOF de diffamation, imputation dommageable et injure publique. À l'ordre du jour de ce lundi, il a été prévu l'instruction de la cause, mais le juge n'était pas disponible. La cause a été renvoyée à lundi prochain. Paul Mounanga.
Tout a commencé avec la publication par la Ligue contre la corruption et la fraude au mois de septembre dernier d'un communiqué de presse accusant le président du conseil d'administration de la SNCC de détournement du compte de la société d'une somme d'un million de dollars américains. D'après le communiqué, Mathieu Nsenga Kabika a ordonné le paiement de cette somme d'argent à la société Safuel pour la fourniture du carburant à la SNCC. Pour la LICOF, la société Safuel, dans laquelle M. Mathieu Nsenga Kabika serait actionnaire, n'a jamais été retenu par la commission de la SNCC pour lui fournir du carburant. Le président du conseil d'administration de la SNCC rejette cette accusation et parle plutôt d'une diffamation. Selon lui, il ne revient pas à un PCA de signer des contrats pour le compte de son entreprise. Aussi ajoute-t-il, si Safuel a signé un contrat avec la SNCC, cela n'a rien à voir avec lui. Lubumbashi, Paul Mounanga, Radio Okapi.
Retour à Kinshasa, signature d'un contrat de partenariat entre l'INSS et la Société Générale de l'Immobilier. Ce contrat concerne la réhabilitation, la rentabilisation et la protection des immeubles de l'INCC. Son administrateur, délégué général, l'a annoncé cet après-midi au cours d'un point de presse. À cet effet, 7 bâtiments sont sélectionnés à titre expérimental et seront gérés par la Société Générale de l'Immobilier pour une période de 10 ans. Que deviennent alors les occupants actuels de ces immeubles? Réponse de Faustin Toengao, ADG de l'INCC, joint par Jocelyne Moussa-Opondé.
Ils ne seront pas déguerpis d'une manière sauvage. Nous avons réaffirmé dans le contrat le principe selon lequel tous les locataires qui ont signé le contrat avec l'INSS et que ces contrats sont en vigueur, ces contrats vont continuer à courir jusqu'à leur expiration. Pendant ce temps, le taux de loyer appliqué reste aussi en vigueur. Sauf si les partenaires réalisent de grands travaux, à ce moment, il y aura une plus-value qui peut avoir de l'incidence sur le taux de loyer. Après la réhabilitation, il reconnaît aussi le droit de préemption à ses locataires. Avant de prendre d'autres locataires, ce sont d'abord ceux qui étaient là, qui ont le droit de continuer à y habiter, sauf s'ils renoncent dans la mesure où ils ne seront pas en mesure de s'adapter aux nouvelles conditions.
Et puis en plus bref, à l'Assemblée nationale, adoption cet après-midi du projet de loi portant financement public des partis politiques de la campagne électorale. Cette loi vise entre autres la consolidation de la démocratie pluraliste à travers le renforcement des capacités d'action des partis politiques et leur indépendance. Au Kasaï oriental, la société civile demande aux autorités provinciales d'instaurer une justice équitable pour tous dans la province. Position exprimée dans un mémorandum remis hier au gouverneur de province. Ce cahier de charges reprend entre autres la prévention des conflits fonciers et coutumiers qui rongent profondément le Kasaï oriental. Richard Kana, chargé des relations publiques de la Sosicor, est au micro de Billy Ivan Lutumba.
Ces derniers temps, notre province est sujet de beaucoup de cas de conflits coutumiers, des cas de conflits fonciers. À ce titre, la Suisse-Île s'est vue interpellée. Nous déplorons cela. Pour ce qui est des conflits fonciers, nous avons demandé l'initiation des enquêtes des limites des terres et l'instauration d'un système de bornage. L'État peut restaurer son autorité en tant qu'État en instituant des enquêtes des limites des terres avec des experts en la matière et il faut recourir aux coutumiers, aux administratifs, aux politologues, aux historien, ça peut vraiment aider à rétablir l'ordre du moment que chaque village se retrouve dans ses limites bien propres et bien définies. Et à ce niveau-là, nous demandons le renforcement des mesures de sécurisation des personnes en utilisant même la prévôté militaire pour suppléer aux effectifs de la police, puisque souvent la police est très concentrée dans des centres urbains.
18h14 à Kinshasa, fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis.